Votre émission vous est présentée par Nutergia, expert en micronutrition depuis plus de 30 ans. Tout va bien.
Mangeons.
Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Bonjour Déborah.
Bonjour Fabrice.
Déborah Ohana, chaque semaine sur Nutri Radio. Est-ce que votre générique vous fait du bien à la tête? Parce que Orantène m'a dit que vous aviez mal à la tête.
Oui, aujourd'hui j'ai un peu une migraine.
Donc,
ouais, je pense qu'il faudrait que je le réécoute et réécoute et réécoute plusieurs fois.
Mais oui, là vous êtes allongé. Est-ce que vous avez mis de l'huile essentielle de menthe poivrée sur les tempes?
Non, je ne savais pas que ça fonctionnait pour les migraines. Je connaissais ça pour les douleurs digestives, moi.
Eh oui, mais si vous mettez ça sur une goutte de chaque côté, vous massez un petit peu, même sur le front, hein, ça rafraîchit, ça fait du bien. Alors faut... Évidemment, ça ne guérit pas de la migraine, hein, mesdames, messieurs. Ce sont des informations qui ne se substituent pas à un avis ni à un traitement. Mais ça soulage un peu, vous voyez, ça donne un peu de fraîcheur. Du coup, on est moins focusé sur son mal de tête. Petite astuce. Non, mais c'est un migraineux qui vous dit.
J'essaierai.
Bah oui,
je vous dirai.
Non, mais ça soulage. Vraiment, ça soulage. Ça apporte une espèce de réconfort. Et si vous avez pris un petit médicament, en attendant que le médicament fasse effet, vous voyez, c'est le truc un petit peu idéal. Et en plus, ce qu'il y a de mieux encore, c'est de partager avec nous vos connaissances. Comme ça, vous videz votre cerveau. Vous voyez, vous videz votre crâne. Et c'est ce que vous allez faire maintenant, puisque nous allons parler du fameux rééquilibrage alimentaire. Qu'est-ce qu'on doit en penser, Déborah?
Eh oui, parce que de nos jours, lorsqu'on va voir un professionnel de la nutrition pour perdre du poids, eh ben, très souvent, on va vous proposer de faire un rééquilibrage alimentaire. C'est un peu le nouveau truc à la mode. C'est une sorte de nouvelle façon de vous alimenter sur la base de l'équilibre alimentaire ou d'un programme alimentaire, un programme nutritionnel personnalisé. Donc, les personnes sont plutôt conquises. Vous allez me dire quelque chose, Fabrice?
Non, pas du tout. Je vous écoute. Vous entendez des voix. Vous entendez des voix, c'est...
Ah oui, s'il y a des questions, vous me dites, de toute façon.
Oui, non, évidemment.
Tout de suite, vous savez.
Évidemment.
Donc, en fait, les personnes, finalement, elles sont plutôt conquises et elles se lancent dedans, dans ce rééquilibrage alimentaire, comme si c'était une nouvelle méthode, en fait, de perte de poids. Et j'aimerais justement aujourd'hui qu'on se penche un peu plus sur cette pratique pour apporter une vision différente de ce que cette approche promet. Parce que je reçois beaucoup de patients, moi, qui sont un peu désemparés après avoir suivi souvent plusieurs rééquilibrages alimentaires, qu'elles soient accompagnées ou pas, ces personnes, mais souvent elles le font pendant plusieurs mois ou même plusieurs années. Et donc j'aimerais qu'on fasse un petit point aujourd'hui sur ça.
Très bien, bah écoutez, je pense que si vous constatez qu'effectivement des gens sont désemparés, moi ça me fait toujours un peu halluciner, enfin pas halluciner, mais surpris. De voir à quel point ça peut impacter les gens, vous savez?
Ah oui, mais énormément. En fait, ça, on rentre complètement dans l'intimité avec l'alimentation, finalement. Ça relève de l'intime, comment on mange, la façon qu'on a de se poser quand on mange, etc. Et en fait, ça impacte énormément parce que ça touche à une souffrance, le poids, l'image de façon générale. Les personnes ne sont pas OK avec leur image depuis la nuit des temps, je pense, et encore plus de nos jours. Et donc forcément, ça les touche profondément.
Vous savez, ce qui est aussi ce qu'on peut noter, c'est que les gens ne sont pas OK avec leur image. Néanmoins, on est dans une société où les gens ne se sont jamais autant mis en scène à travers les réseaux sociaux. Donc, dans un premier temps, on va dire, ça permettait aussi à certaines personnes de se décomplexer. C'était comme une espèce de thérapie. Vous voyez, on se filme, on n'aime pas, mais bon, on a envie de raconter nos vies. Et à force de se voir, on prend plus confiance. Et sont apparus les filtres. Alors là, les filtres, aïe. Non, mais ça a bousillé un petit peu le truc. C'est-à-dire que maintenant, c'est pire. Il y a des gens qui ne peuvent plus, quand ils se voient en photo sans les filtres, ils se disent, c'est pas moi, cette personne n'est pas moi.
Oui, ça accentue les difficultés, en fait, les filtres. Mais c'est pas ça. Enfin, dans les réseaux sociaux, c'est encore un autre débat, mais il y a beaucoup de choses de pathologiques là-dedans. Quand vous voyez tous les influenceurs, etc., c'est-à-dire qu'ils sont accros un peu aux likes, aux j'aime, et finalement, ils vivent à travers les j'aime et les likes, et s'ils n'ont pas eu de likes, eh bien en fait, ils ne vont pas se sentir bien. Donc il y a une dimension pathologique à travailler là-dessus, alors pas avec un nutritionniste, mais je pense que c'est un vrai sujet, ça.
C'est effectivement un vrai sujet. Alors on va revenir quand même sur ce rééquilibrage alimentaire. Alors, est-ce que ça fonctionne déjà?
Si ça fonctionnait déjà, il ne faut pas se mentir ou arrêter de croire à du rêve dans le domaine du poids. et se dire que si faire un rééquilibrage alimentaire permettait vraiment de faire perdre du poids et de le maintenir à long terme, autrement dit, si nous avions trouvé une méthode révolutionnaire pour perdre du poids durablement, vraiment, l'obésité aurait disparu de ce monde. En réalité, le rééquilibrage alimentaire a un peu de nouveau remplacé le mot « régime », qui est un mot qui est devenu bien trop galvaudé. Et faire un rééquilibrage alimentaire, ça fait un peu plus chic. Vous voyez, le mot « régime », c'est devenu un peu un tabou. Et surtout, ça fait bien moins peur. C'est-à-dire, quand on parle de régime, les gens s'affolent. Comme on fait beaucoup de prévention autour des régimes, ça commence un peu à rentrer. Les personnes savent maintenant que c'est assez dangereux. Et donc, on va dire, là, on ne fait pas un régime, mais c'est un rééquilibrage alimentaire. Mais en réalité, c'est devenu le nouveau mood de la perte de poids, mais en version santé. Cependant, cette méthode seule, vraiment, si on fait juste un rééquilibrage alimentaire, ça ne peut pas du tout mener à une alimentation apaisée, ni même à une perte de poids durable. Et justement, on va voir quelques points du pourquoi. Si vous êtes OK, Fabrice.
Mais je suis toujours OK avec vous. On marque une toute petite pause et on entend ce que vous avez à nous dire à ce sujet dans un tout petit instant.
Tressautement des paupières, fatigue, vous manquez peut-être de magnésium. Découvrez le magnésium RJMag, la seule formule qui associe 4 formes de magnésium pour réduire durablement votre fatigue. Avec en plus des vitamines B et du zinc, RJMag, c'est bien plus que du magnésium. Retrouvez les compléments alimentaires Nutergia dans votre pharmacie ou sur nutergia.com. Le magnésium contribue à réduire la fatigue. Pour votre santé, bougez plus.
Tout va bien.
Mangeons.
Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Déborah Ohana sur Nutri Radio, tout va bien, mangeons, on parle du rééquilibrage alimentaire avec vous aujourd'hui. Alors quand on suit un rééquilibrage alimentaire, comment ça se passe?
Mais en fait, ça se passe qu'on va suivre des règles alimentaires que nous n'avons pas choisies et qui, même si elles sont régies sous le biais de la santé, deviennent pour nous des nouvelles injonctions, qui nous privent donc de notre liberté et de notre spontanéité alimentaire et nous amènent dans un espèce d'état de préoccupation latent. C'est-à-dire qu'on va penser, est-ce que c'est bien ou pas bien d'avoir fait ce choix, etc., en référence à ce rééquilibrage alimentaire. Parce qu'en réalité, le rééquilibrage alimentaire, c'est une sorte de programme qu'on vous donne et qui se base sur l'alimentation santé, sur les grandes lignes de l'alimentation santé. Mais également, on va suivre des quantités théoriques qui ne sont pas ajustées à nos réels besoins, puisque déconnectées de nos ressentis de faim et de rassasiement et de notre corps, mais que malgré tout, nous essayons de respecter. Donc ça va dérégler par conséquent notre équilibre alimentaire personnel. Et souvent même, ces quantités données sont identiques à toutes les personnes. C'est-à-dire qu'on essaye de faire rentrer les personnes dans le même moule alimentaire et ça ne peut pas être fiable et c'est un peu irréaliste, quoi. C'est-à-dire que les quantités qui sont données dans le rééquilibrage alimentaire sont des quantités de portions théoriques qu'on peut avoir sur Google même. C'est des portions qui sont théoriques et on va essayer de faire tendre les personnes vers ces portions-là. Comme si notre propre besoin physiologique ne comptait pas finalement, puisqu'il fallait se rapprocher vers des quantités théoriques.
Effectivement, tous pareils. Allez hop.
C'est ça, ben, c'est exactement ça.
D'accord.
Donc, faut pas oublier non plus que faire un rééquilibrage alimentaire, ben, c'est suivre un rythme alimentaire, c'est-à-dire un nombre de repas et des horaires qui nous sont imposés, donc qui ne nous conviennent pas forcément. Et pas forcément tout le temps, mais dans lequel nous allons malgré tout essayer de rentrer absolument tout le temps. Exactement, exactement et exactement comme dans un régime restrictif où nous suivons une trame alimentaire.
D'accord.
Ouais. Ah, c'est pertinent pour vous, Fabrice, là, je le sens.
Écoutez, je travaille mes transitions depuis ce matin, très tôt. Je me suis réveillé à 4 heures. Je me suis dit, donc, à un moment donné, je vais dire d'accord ou très bien. Là, je suis sur le d'accord. Tout à l'heure viendra le très bien. Ne vous inquiétez pas.
Ouais, oui, c'est des transitions pertinentes.
Travailler. Mais vous savez, je fais des maquettes pour RTL, la matinale, chaque jour. Là, voilà, le très bien.
Ça
vite alors. Non, mais alors, est-ce que le comportement alimentaire, il va nous perturber, mais est-ce qu'on doit se préoccuper? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va nous préoccuper en particulier? Vous voyez, très bien, d'accord.
Bien, en fait, notre comportement alimentaire, progressivement, il va se perturber, mais en réalité, on ne va pas y travailler car on est préoccupé davantage à travailler sur nos choix alimentaires, qui, je le rappelle, par conséquent, sont souvent des conséquences d'un comportement et d'une relation alimentaire perturbée. Donc, nous travaillons, finalement, quand on fait un rééquilibrage alimentaire, on travaille ainsi sur les conséquences de ce comportement et non pas sur le comportement. Ce qui explique d'ailleurs, enfin, c'est une des raisons qui explique que ça ne peut pas fonctionner en réalité sur du long terme, ces approches-là.
Très bien. Donc,
Faut que je m'habitue.
Non, en okay. fait, c'est un peu pareil. On n'est pas dans la vision, on va dire, intégrative du régime. On s'intéresse aux conséquences, alors qu'on ferait mieux de travailler effectivement sur les causes.
Exactement. En tout cas, c'est comme ça. Moi, vous savez que je travaille. Après, c'est un peu à la mode le rééquilibrage alimentaire et c'est un peu énervant. Après, on va voir, on va continuer d'en parler, mais ça fait beaucoup de dégâts. Donc, notre relation alimentaire est finalement, quand on suit un rééquilibrage alimentaire, focussée uniquement sur la perte de poids. Et notre référentiel santé est alors biaisé puisque ça n'est plus celui de la santé ou du bien-être, mais c'est celui du poids. C'est-à-dire qu'on va prendre en référence la perte de poids et non pas notre bien-être et notre santé.
Ah, l'obsession de la perte de poids. Ouais, donc, on n'est plus dans l'instant présent.
On n'est plus vraiment dans l'instant présent non plus, puisque progressivement, nos choix alimentaires se basent sur le passé ou le futur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait hier, qui pourrait être rééquilibré aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le futur pour rééquilibrer et tendre vers ce rééquilibrage alimentaire. En fait, on est dans une préoccupation tout le temps qui nous déconnecte de l'instant présent. D'autant plus que le poids qu'on faisait hier sur la balance et celui que nous souhaitons faire dans un futur nous amène à un état, justement, davantage de préoccupations permanentes.
Ça va nous stresser, cette histoire. Ça nous stresse, alors.
Ça stresse. Et ça, c'est valable pour toutes les approches ou les méthodes qui sont focussées uniquement perte de poids. Vous savez, vous allez voir des pros aujourd'hui, certains pros de pseudo-nutrition et qui s'en foutent complètement de comment vous vivez la chose. Et en fait, eux, leur consultation, c'est on va vous peser, on va voir si ça a fonctionné sur le poids. Et si ça n'a pas fonctionné sur le poids, eh ben, on va encore restreindre des choses ou modifier des choses. Mais tout le reste, comment on a réussi à vivre ça, comment mentalement on a vécu la chose, comment physiquement on s'est senti, est-ce qu'on a été fatigué, est-ce qu'on a eu de l'énergie, etc. Tout ça, en fait, bah, ils s'en tapent. Et c'est très, très compliqué.
On va marquer une dernière pause, Déborah, si vous voulez bien. Et
allons-y.
On se retrouve juste après ceci.
Tout va bien.
Mangeons.
Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Le rééquilibrage alimentaire, la nouvelle tendance en termes de nutrition, de diététique, on va vous conseiller. Et on va vous dire, voilà, vous allez perdre du poids avec une méthode qui peut marcher, mais à quel prix? À quel prix et que, sur quelle durée? Vous précisiez ça, Déborah, qu'à un moment donné, ce rééquilibrage, il faisait fi un petit peu de tout ce qui est notion individuelle, personnelle. C'est juste un objectif. Et j'ai envie de vous dire que c'est un peu comme ça que ça fonctionne dans beaucoup de domaines. De l'éducation nationale, par exemple, quand vous savez, il faut absolument apprendre une matière, connaître un truc, voilà, il faut le résultat prime. On ne s'attache pas forcément à ce que ça provoque chez les élèves.
Exactement. Il y a beaucoup de secteurs où c'est comme ça. Après, dans l'alimentation, ça touche quand même au domaine de la santé, que ce soit mental ou physique, et je trouve ça un peu très problématique. Et donc, ce n'est pas l'idée d'avoir des résultats, parce que c'est un peu logique de se dire on va faire quelque chose aussi pour avoir des résultats, mais c'est la question de quel est le résultat qu'on cherche. Parce que si on cherche uniquement un résultat de poids, en réalité, c'est comme si on se disait qu'on se résumait, nous, en tant qu'humains, à un poids. Et en fait, on est bien plus qu'un poids. On ne va pas se résumer à un poids. Donc, on ne peut pas occulter ce qui fait de nous des humains et nous résumer, en fait, à juste une perte ou une prise de poids. Vous voyez ? Donc, c'est compliqué.
Oui, c'est effectivement compliqué. Alors, sur l'impact des repas, par exemple, quand on est focusé uniquement sur le poids, il faut que je perde autant, on finit par ne plus apprécier même ce qu'on mange.
Ben oui, en fait, on a plus de. Les repas ne sont plus dans un équilibre de façon générale, parce que dans équilibre, il n'y a pas que des quantités, des choix alimentaires, il y a aussi l'équilibre plaisir, il y a aussi l'équilibre santé, il y a l'équilibre bien-être, enfin, c'est un équilibre global. Puisqu'on est en train de suivre une trame alimentaire, bah, ça nous rend anxieux de façon générale pour pouvoir se rapprocher de cette trame alimentaire le plus possible. Que ce soit dans notre quotidien ou dans notre vie sociale, nous développons une sorte de culpabilité souvent surdimensionnée lorsque nous avons trop mangé ou mangé différent de ce que le rééquilibrage alimentaire nous demande, etc. etc. Dit autrement, nous perdons notre flexibilité de pensée. Et c'est quelque chose qui est très important et crucial à travailler, c'est la flexibilité un peu cognitive dans les difficultés de comportement alimentaire. Donc, une approche dont le paradigme alimentaire se fixe uniquement dans le paradigme de la perte de poids amènera aussi et toujours cette anxiété permanente, puisque même en perdant du poids, après, le nouveau focus, ça va être de ne jamais en reprendre. Et donc, à mon sens, et depuis mon expérience, dans un travail nutritionnel de qualité, la reconnexion au corps doit être et doit rester le fil conducteur de façon permanente pour nous permettre de nous reconnecter et d'ajuster justement à nos besoins, à nos réels besoins sur l'instant présent.
Je suis bien d'accord avec vous, Déborah. Alors, qu'en pensez en conclusion finalement de ce rééquilibrage alimentaire ?
Bien, en conclusion, en réalité, le rééquilibrage alimentaire n'a rien de bien différent que de la pratique d'un régime, si ce n'est le fait qu'elle se base effectivement sur des règles alimentaires santé. Personnellement, je n'ai rien contre ce type d'approche, même si c'était un peu paradoxal sur ce que je viens de vous annoncer.
Carrément.
Mais uniquement, enfin, j'ai rien contre ce type d'approche uniquement si elle est complétée d'un travail sur le comportement et sur la relation à l'alimentation. Et surtout en fonction de ce qu'elle cache. Parce que, à l'heure actuelle, faire un rééquilibrage alimentaire, c'est souvent suivre des règles alimentaires qui nous sont imposées de façon rigide et qui prônent, en fait, des compensations alimentaires en cas de non-respect. S'il n'y a pas ça et qu'on part juste sur une trame alimentaire en forme de guide alimentaire, mais qu'à côté de ça, autour de ça, on travaille notre relation et nos comportements, bah, c'est tout à fait convenable. Parce que travailler sur nos choix alimentaires, en réalité, sans travailler sur notre relation alimentaire, c'est comme si on mettait un pansement à chaque fois qu'on a mal, sans jamais travailler les réelles blessures, les réelles plaies, quoi. Alors, c'est sans fin. Vous pouvez faire des rééquilibrages alimentaires comme ça pendant 10 ans, et sans blaguer, hein.
C'est incroyable, parce qu'enfin, on s'en sort pas, c'est une nouvelle obsession, et le jour où on la perd, d'ailleurs, est-ce que le jour où on arrête, quand on est pris dans un tel, dans un tel engrenage, est-ce que quand il nous manque pas quelque chose, il nous manque pas une obsession qu'on va transférer ailleurs?
Bah, je pense que oui, en fait, l'obsession, elle disparaît pas. C'est-à-dire que le jour où on arrête ça, déjà, si ça nous a fait perdre du poids, bah, on le reprend. Et donc, forcément, il y a une nouvelle obsession qui revient. C'est-à-dire que comment perdre encore absolument ce poids? Et si on le reprend pas, ce qui est quand même assez rare si on n'a pas travaillé le comportement alimentaire, et bah, la nouvelle obsession, c'est comment ne pas le reprendre. Vous voyez, en fait, c'est une préoccupation permanente. Et c'est pour ça que, en tout cas, moi, quand j'accompagne les patients, le paradigme, notre référentiel, en fait, on est bien plus élargi que le poids. On ne va pas focaliser uniquement et uniquement sur le poids, mais on va prendre des paramètres comme la santé, comme le bien-être physique, mental, le sommeil, le digestif, la convivialité. Enfin, vraiment tous les paramètres qui constituent notre vie, en réalité, hein.
Ah oui, c'est un vrai travail.
C'est un vrai travail, exactement.
C'est du sur-mesure, voilà. La différence entre un bon et un mauvais chasseur, il n'y en a pas beaucoup. Mais entre un bon et un mauvais diététicien, il y en a beaucoup. On prend en compte l'individu tel que vous êtes, c'est du sur-mesure. La différence entre le prêt-à-porter et les sur-mesures, eh bien, vous l'avez compris, Déborah Ohana, c'est du sur-mesure, mesdames, messieurs. Et c'est pour vous, chaque semaine, sur Nutri Radio. Et si vous voulez aller plus loin, bah, je vous conseille d'aller la consulter directement, d'aller la voir, d'aller prendre des informations. Vous êtes toujours sur Doctolib, vous, hein ?
Je suis toujours, pour l'instant, sur Doctolib, pourquoi, en réflexion encore.
Et pourquoi ? C'est-à-dire, il se passe quoi, là ? Pourquoi réflexion ?
Oh, c'est compliqué, Doctolib, c'est très très compliqué. Comme disait une consoeur à moi, c'est devenu un peu le supermarché des professionnels. Et les personnes sur Doctolib ne vont pas forcément venir vous voir pour vous, mais ils vont venir vous voir parce qu'il y a une place qui est dispo là.
Mais ouais, mais c'est ce que je fais, moi.
Oui, mais du coup. Bah, il risque d'être parfois alors agréablement surpris, ou parfois ça ne va pas convenir à leurs attentes. Et donc du coup, sur Doctolib, ça fait 3 ans que je collabore avec Doctolib, et c'est devenu un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le respect, en réalité, du professionnel. Les gens annulent comme ça pour rien du jour au lendemain, et ils vont pas forcément faire des recherches concrètes pour aller choisir leur professionnel de façon générale, mais vont aller voir le professionnel le plus rapidement disponible. Alors il y a des professions pour lesquelles ça peut ne pas forcément embêter. Et encore, je vous dis ça, mais j'ai même pas d'exemple. De façon générale, dans le domaine de la santé, c'est un peu problématique, quoi. Parce qu'on a chacun nos compétences et chacun notre façon de travailler.
Ouais, alors moi, je veux dire, je suis de l'autre côté de la barrière, donc en tant que consommateur, ou patient, c'est selon. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on veut prendre rendez-vous avec certains professionnels, alors pour le peu qu'on a un peu déménagé, qu'on n'a pas son docteur de famille depuis des années, et que on a des enfants et qu'il faut, enfin je sais pas moi, on a besoin de diagnostic ou d'un avis ou d'être aidé immédiatement. C'est vrai que moi le médecin il me dit ouais rendez-vous dans 6 mois. Bon ça me fatigue donc je vais bien sur Doctolib et je fais le petit filtre là et ce rendez-vous immédiatement. Ça m'arrive de faire des bisous avec quelqu'un je ne connais même pas. Je veux juste une ordonnance.
J'entends Fabrice. Le problème de ça c'est que le professionnel qui a un rendez-vous dans 6 mois. Peut-être qu'il est beaucoup plus compétent que le professionnel qui est disponible dès demain. Et en fait, c'est une question de choix. Et j'entends bien, et je suis aussi utilisatrice de Doctolib. Après, c'est un autre débat, ça. Hein. Je suis utilisatrice de Doctolib en tant que patient, mais de l'autre côté de la barrière, c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la responsabilité du patient. C'est-à-dire que vous avez très souvent ce qui se passe, c'est que les gens vont prendre 3-4 rendez-vous chez des professionnels, et puis après, c'est le marché, quoi. Ils choisissent en fonction de ce qu'ils sentent le plus cool, le moins cool, mais ils ne vont pas forcément s'intéresser aux professionnels, s'intéresser à ses compétences, à comment ils fonctionnent, à l'approche qu'ils proposent, etc. Pendant des années, il n'y avait pas Doctolib et le monde de la santé se portait bien. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs beaucoup, beaucoup de professionnels qui exercent depuis des années, qui ne sont pas sur Doctolib et qui ont une patientèle hyper régulière, hyper stable, parce qu'il y a la confiance qui s'instaure. Avec Doctolib, moi, j'ai pas ce ressenti-là, quoi. C'est pas les mêmes personnes qui viennent me consulter, c'est pas les mêmes attentes, c'est pas pareil, c'est pas comme avant. Et donc, je suis en pleine réflexion sur est-ce que je continue avec eux ou est-ce que je change de système de réservation. Et puis c'est un peu humain, quoi. On perd l'humanité avec Doctolib. Quoi.
Bon, attendez. C'est un vrai sujet.
Autre émission.
Moi, je me rends compte que c'est un vrai sujet. Ce serait bien d'avoir des auditeurs. Il y a un vrai sujet. Parce que vous avez votre avis et moi, c'est un éclairage auquel je n'avais pas forcément pensé. Moi, je vous donne le mien en tant que patient, mais il y en a autant d'avis qu'il y a peut-être d'auditeurs. Donc, ce serait intéressant de s'y pencher, une émission spéciale sur les prises de rendez-vous en ligne par ces plateformes, dont Doctolib est un petit peu la locomotive. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Comment il peut y avoir un respect mutuel à la fois du patient et du professionnel de santé? Parce que c'est vrai qu'on rentre dans une espèce de logique de supermarché en oubliant l'humain. Ça, vous avez totalement...
Exactement. Il n'y a plus d'humanité. C'est derrière un ordi, on téléphone plus, il n'y a plus d'échange. Enfin, c'est contraire aux valeurs que je prône, en tout cas.
Bon, eh bien, écoutez, on va se retrouver la semaine prochaine. Merci beaucoup, Déborah. Merci.
Merci beaucoup, Fabrice. À bientôt.
Et à la semaine prochaine, émission que vous retrouvez en podcast sur nutriradio.fr à la fin de la semaine, c'est dimanche aux alentours de 18h, donc, et aussi sur toutes les plateformes de streaming ou du retour de la musique, tout de suite sur Nutriradio.
Tout va bien. Mangeons. Déborah Ohana sur Nutriradio.